Yetiv Marema avec un nain.
Voilà. Alors, pour se faire le point, on a donc une machloket Abaye et Rava. Dans l'histoire de. Dans l'histoire du gangster là, qui a essayé de. Vous avez vu, vous vous souvenez? Il y a, alors, la Gemara, elle est sur Amoud Aleph. En bas. La Gemara, elle rapporte Aou Gavra, c'est ligne avant la fin. Il y a un bonhomme qui. De Mashkin le Pardissa le Chavré. Donc, c'est un prêt qui est garanti par Pardissa, c'est une vigne. Donc la vigne est en garantie du prêt et c'est une garantie de telle sorte que le prêteur peut manger les pérottes de la vigne. Alors, il a mangé les pérottes pendant 3 ans. Non. Et puis, à ce moment-là, il est allé chez l'emprunteur et il lui a dit, vends-moi ta vigne. Je suis intéressé, je veux t'acheter ta vigne. Et l'emprunteur, il n'a pas du tout envie de la lui vendre. Alors il lui dit, vends-la, si tu me la vends, c'est bien. Si tu ne me la vends pas, alors je vais cacher, j'ai la reconnaissance de dette donc, que tu m'as écrite. Selon cette reconnaissance de dette, il est aussi écrit que le pardès, que la vigne est en garantie. Donc je vais faire disparaître le jetard. Et je dirais que j'ai acheté la vigne. Évidemment, tu pourras m'attaquer en disant, mais montre-nous l'acte d'achat de la vigne, mais je n'ai pas besoin de te montrer parce que j'ai fait 3 ans de chazaka dans la vigne. D'accord ? Il y a eu un din de chazaka. Donc je n'ai pas besoin de garder mon shtar plus longtemps que 3 ans si j'ai une chazaka. Alors évidemment, puisqu'il a mangé les restes. Alors, donc ça veut dire, bon, je vais perdre le bénéfice de. Il ne pourra plus se faire rembourser son argent, puisqu'il va. Il va cacher, mais ça veut dire que le propriétaire de la vigne va y perdre, parce qu'évidemment, si la vigne était en garantie, c'est qu'elle vaut plus que le prêt. Il dit, vends-la moi, sinon tu vas tout perdre. Tu ne vas pas tout perdre, mais tu vas y perdre, puisque tu n'auras plus la vigne et. Tu n'auras pas la différence entre la valeur de la vigne et le montant du prêt. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, le propriétaire de la vigne, il a fait don de sa vigne à son fils mineur. Donc il a besoin de rien du tout pour ça. Voilà. Et puis ensuite, bon, il a cédé, il a fait comme s'il cédait et il a vendu la vigne. Il a fait un acte de vente de la vigne. Et quand l'autre s'est pointé avec son acte de vente, il dit, cet acte de vente, il ne vaut rien du tout parce que je t'ai vendu une vigne qui ne m'appartenait pas. Elle appartient à mon fils. Alors la Gemara dit, bon, c'est sûr que la vente n'est pas une vente, puisque le. Mais maintenant, quel est le statut? Quel est le statut? Il lui a écrit une achayout probablement sur la vente. Il lui a dit, si jamais on te saisit le champ d'une manière ou d'une autre, je te garantis que je te le paierai. Je te donnerai la contre-valeur du champ. Donc maintenant, dans la achayout, c'est un shtar, est-ce qu'on va dire, on va considérer l'argent que le gangster acheteur de la vigne a donné au propriétaire de la vigne pour prix de la vigne, on va considérer que cet argent-là, c'est un prêt. Quel statut il a? C'est de l'argent qui n'est pas à lui. Et il est d'accord qu'il lui a donné cet argent. Mais maintenant, on peut dire, on pourrait imaginer qu'il soit arrangé, en plus, pour ne pas être solvable. Il a immédiatement claqué cet argent, ou il a planqué, etc. Maintenant, quand il faut rendre l'argent, il dit, ouais, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus. Et alors, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on considère que le prêt est réputé un prêt avec un shtar, puisqu'il y a la chayout, ou alors est-ce qu'on considère que le prêt est un prêt oral? La différence étant, avec le shtar, il peut être toref le kuchot, c'est-à-dire il peut aller prendre les champs qui étaient garants et qui ont été vendus, il peut aller se servir, etc. Si le prêtre est un prêtre oral, il ne le peut pas. Là-dessus, Abaye avait dit, mais cette question que vous vous posez, c'est une question que Ravasi a résolue. Parce que Ravasi, il a dit dans un autre contexte, il a dit la chose suivante. Il a dit, comme vous savez, quand il y a un shtar, quand quelqu'un présente un document à l'autre, il dit, voilà, tu me... une reconnaissance de dette, systématiquement, ce qu'on dit quand, face à ce shtar, on dit mezouyaf. On dit c'est un faux. Et si même si on ne le dit pas, le tribunal le dit pour nous. Il dit pourquoi ça revient à dire on n'entre pas en matière avec ce shtar tant que tu n'as pas authentifié les signatures. Bon, puisque un shtar, c'est un témoignage écrit. Et les signatures, il faut savoir si est-ce qu'on trouve les témoins qui viennent et disent c'est notre signature, ou on trouve des gens qui viennent et qui disent nous on est en affaire avec ces gens-là, nous reconnaissons la signature de monsieur truc et monsieur machin. Cette opération, elle s'appelle kiyum hashtar. C'est-à-dire littéralement, ça veut dire faire tenir le shtar. Donc en fait, un shtar ne tient pas tout seul, il tient bien avec la signature des témoins à condition qu'elle soit authentifiée. Comme en droit français, il faut authentifier les signatures. Et alors Ravasi a dit, alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, si A, reconnaît qu'il a écrit le shtar à B? Il dit oui, c'est juste, tu m'avais prêté 200 euros, et on a écrit un shtar, mais entre temps je te l'ai remboursé, ou peu importe, enfin, je te les dois plus en tout cas. Mais le shtar, je l'avais écrit. Ah, et on aurait dû déchirer le shtar, ou il aurait dû lui donner un reçu quand il a payé. Bon, ça s'est pas fait d'une manière ou d'une autre. Mais je reconnais que j'ai écrit ce shtar, donc c'est pas un faux le shtar, mais je t'ai payé. Alors la Ravasi a été mechadesh. On n'a pas besoin du kiyum hashtar, puisqu'il reconnaît qu'il l'a écrit, donc je n'ai pas besoin d'un kiyum. En soi, ça s'entend très bien. Et ça ne s'entend que dans la relation entre le prêteur et l'emprunteur. Mais étant donné qu'avec un shtar, on peut toref le kuchot, on peut prendre les nevrasim amushubadim, on peut très bien imaginer que les deux, là, ils se soient mis d'accord sur le dos d'un autre pour le rouler. C'est-à-dire pour, en fait, après il vient lui prendre son champ. Entre temps, lui, il a peut-être fait toutes sortes d'aménagements, c'était justement le champ qui lui manquait pour faire de la culture extensive. Il a acheté des tracteurs et ça pour faire, et maintenant tu lui enlèves cette pièce là c'est juste la pièce au milieu, il peut plus la faire, et donc peut-être que c'est une façon de le couler, etc. Ils se sont mis d'accord sur son dos, et néanmoins Ravasi a dit que c'est non seulement on n'a pas besoin d'un kiyum, et on est gové menechassim meshubadim, et on peut se payer sur les biens gagés, même quand ils ont donc été vendus, etc. Donc Abaye dit, ben voilà, c'est notre cas. Bon, ça veut dire il est bien modé qu'il a écrit le shtar. D'accord, donc j'ai besoin de rien du tout. On n'a pas besoin de kiyum hashtar, et un tel shtar permet d'être toref le kuchot, de prendre le shubel. N'est-ce pas? Ici, les edim, ils sont des témoins, mais on sait bien que c'est pas vrai. D'accord? On sait bien que ce shtar qui a été écrit ne correspond pas du tout à une vente. Mais néanmoins, de ce shtar, on peut tirer, en tout cas, qu'il a reçu l'argent de la vente. Alors Rava lui a objecté, il a dit, mais ça ne ressemble pas du tout à ça. Tu ne peux pas les comparer. Pourquoi? Parce que le shtar dont parle Ravasi, ce document-là, c'est un document qu'on avait le droit d'écrire. On a écrit un document, il y a des témoins. Maintenant, il faudrait authentifier. Bon, ce shtar-là, on avait le droit de l'écrire. C'est-à-dire, j'ai un shtar, j'ai pas de kiyum, Bien que j'ai pas de kiyum, il peut quand même être se payer sur les nechassim shubadim. Mais le shtar de la vigne, on ne pouvait pas l'écrire. Il y a aucun, il correspond à rien du tout, puisque le propriétaire, enfin celui qui se donne pour le propriétaire dans le shtar, ne l'est pas. Donc ce shtar là où Monsieur Machin vend une vigne à Monsieur Truc, ce shtar là on ne peut jamais l'écrire, il n'a pas de vigne. Donc ce qu'a dit Ravasi, c'est que s'il ne manque qu'un kiyum, alors le fait qu'il reconnaisse est suffisant. Mais si on n'a pas du tout de shtar, le fait qu'il reconnaisse, ça fabrique pas un shtar. Avec ça, il a donc descendu l'argument d'Abaye. Et maintenant, on en est là. Alors, la Gemara dit, « Yativ Maremar », la quatrième ligne, « Bekamar le'ashmata ». Maremar, il a répercuté cet enseignement-là. Et dans l'assemblée, il y avait Ravina. Et Ravina lui a dit, « Amarle Ravina, la Memar », le Maremar, pardon, il lui a dit, « Mais d'après toi, d'après cette idée-là, à savoir que à savoir qu'un shtar qu'on n'a pas le droit d'écrire, bon ben alors ça invalide complètement le shtar, évidemment. Cette idée-là que tu as introduite ici, que ce shtar ne pouvait pas être écrit. Alors, et là, had amar Rabbi Yochanan, gzera shemaik be mizman rishon, nema lo nitan likatev. Alors, Rabbi Yochanan, qui précédemment, dans l'histoire des Shtarot Mugdamim, vous souvenez, on avait vu la chose suivante. La Gemara, elle avait dit qu'il y avait une machloket entre Rabbi Meir et les Rabbanan sur un Shtar qui contient du Rivit. Un Shtar qui contient du Rivit, c'est-à-dire dans lequel il est dit que A a prêté à B 1000 avec un intérêt, une certaine somme. Alors Rabbi Meir, lui, il dit, et c'est comme ça que la Gemara va l'interpréter, Kansinan, on punit la faute qui consistait à écrire un shtar sur du ribit au point d'invalider totalement le shtar et de dire que ce shtar ne peut pas servir pour récupérer le capital non plus. Et les rabbanan disent non, on ne fait pas un knas sur du permis à cause de l'interdit. Donc ce shtar ne vaut rien pour encaisser l'intérêt, mais avec ce shtar on peut encaisser le capital et ça a une valeur de shtar. Pour Rabbi Meir, quand il dit que le shtar ne vaut rien, c'est pas qu'il a perdu l'argent, c'est que c'est devenu un prêt oral. D'accord ? Alors, la Gemara, ensuite, elle avait dit, elle avait voulu comparer justement cette machloquette-là de Rabbi Meir et des Rabbanan, elle a voulu appliquer, enfin, une opinion consistait à appliquer cette machloquette à la situation suivante. La Gemara, elle parle de Shtarot Amugdamim. On parle ici donc des documents antédatés. Ça veut dire, Rouven a prêté de l'argent à Shimon en ticherie. En ticherie. Et ils ont écrit dans le Shtar que le prêt avait eu lieu en Av. C'est antédaté, oui. Alors, cet enseignement, il dit Shtarot Amugdamim Psulim. Le Shtar ne vaut plus rien. Alors, la Resh Lakish a dit ah, ben en vérité, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ça va d'après Rabbi Meir qui dit que le Shtar, qui en fait, parce qu'il faut imaginer, quel est le Psul ? C'est que avec un shtar qui dit que le prêt a eu lieu en Av, alors les champs qui ont été vendus entre Av et Tishri, peuvent être saisis. Alors, illégalement. Alors, mais maintenant, si tu dis que le shtar est pasoul, alors même les champs qui ont été effectivement vendus après la date, la vraie date, on ne pourra plus les saisir non plus si tu dis que le shtar est pasoul. Resh Lakish dit, ben ça va seulement d'après Rabbi Meir. Alors Rabbi Yochanan, c'est de lui qu'on parle ici, Rabbi Yochanan a dit là-dessus, il a dit non. Dans ce cas-là, même les Rabbanan sont d'accord que le shtar est pasoul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser circuler un shtar avec une fausse date, parce qu'il est quand même toujours possible que le type il arrive à faire à se faire payer sur les champs qui, sur lesquels il n'a aucun droit. Donc il faut invalider complètement le shtar. Alors ce qu'il lui dit ici, il lui dit, si tu dis qu'on va invalider le shtar, ça veut dire que tu considères qu'on va faire un knas. Le shtar en vérité il est bon, mais on va l'invalider de peur qu'il l'utilise. D'accord? Schéma, de peur qu'il l'utilise pour le premier zman, pour le depuis Av. Ça c'est seulement schéma. Mais en vérité, d'après toi, c'est encore beaucoup plus grave que ça. Le shtar est pas soul, pas parce que schéma. Le shtar est pas soul parce qu'on n'avait pas le droit de l'écrire. On n'avait pas le droit d'écrire un shtar à la date de Av, alors que le prêt n'a eu lieu qu'en Tishri. D'accord? Vous êtes d'accord? Alors, ça c'est ce que Ravina a objecté à Marima. Alors, à Marima. Alors Marima lui a dit non. Il dit en fait, il y a une grande différence. La différence est la suivante. Le shtar de la vigne, celui-là, c'est sûr qu'on peut pas le. On n'avait pas le droit de l'écrire. Mais le shtar à Mugdam, on avait le droit de l'écrire. Seulement, on n'avait pas le droit de l'écrire en Av, avec la date de Av, mais on avait le droit de l'écrire avec la date de Tishri. Ça veut dire, en réalité, que la Gemara considère que la date n'est pas une partie constitutive du shtar. Parce que le problème qui se pose, c'est le suivant. Est-ce que je considère qu'un shtar qui dit qu'une vente a eu lieu, qu'un prêt a eu lieu en Av, c'est la même chose qu'un shtar qui dit que le prêt a eu lieu en Tishri, sauf qu'il a une autre date, mais essentiellement c'est la même chose? Ou bien je dis non, c'est deux objets complètement différents. Mais si ce sont deux objets complètement différents, alors il ne peut pas lui dire, il y a un distinguo à faire, c'est exactement comme la vigne, on n'avait pas le droit de l'écrire. Tu n'as pas le droit d'écrire en Tishri un shtar qui est daté, que tu vas dater de Av. Et comme Marémar lui a répondu qu'on avait le droit d'écrire le shtar, seulement on n'avait pas le droit de l'écrire avec la date de Av, mais on avait le droit de l'écrire avec la bonne date, avec la vraie date. Donc ça veut dire qu'il considère la date comme n'étant pas une partie constitutive du shtar. Alors ça c'est en fait une grande marloquette pour savoir quel est le statut de la date. Le problème c'est comme ça. Il est comme ça. C'est une grande discussion entre les commentateurs, les poskim, etc. Il y a des shtarot évidemment où on n'a pas besoin de la date. Par exemple, Madame Machin, elle vient, elle veut se marier. Mais elle était déjà mariée. Alors elle dit, bon, oui, mais j'ai un guet. La date du guet, elle peu nous importe. Il faut que aujourd'hui elle a un guet en main, ça suffit. Dans le guet c'est marqué, tu peux épouser qui tu veux. Qu'est-ce que ça me fait qu'elle est divorcée depuis 10 ans ou depuis 5 ans ou depuis 6 mois? Ça ne change rien. Donc dans un shtar comme celui-là, il va avoir une date, mais pour sa fonction essentielle, il n'a pas besoin de la date. Alors évidemment, maintenant, si on crée des obligations, comme ça crée des obligations aux gens qui ont acheté des chants, etc. Là, on comprend bien qu'il faille une date. Mais on peut dire, mais ça, c'est pas l'essentiel du shtar. Le shtar, il parle d'un prêt. Tout ce qu'il y a par ailleurs, c'est pas dans le shtar, c'est les conséquences du shtar. Certains veulent dire qu'en vérité, le din de psoul, c'est un din de edut shebatla miktsata batla kula. Il y a une halakha qui dit que quand un témoignage est partiellement faux, ou il est partiellement on ne peut pas le valider, eh bien, tout le témoignage tombe.
Ah oui?
Edut shebatla, shebatla miktsata, une partie, batla kula. Donc on pourrait dire ici, dans le shtar, ben voilà, la date est fausse, donc c'est une partie du shtar, le shtar ne vaut plus rien. Il y a dans le contenu du shtar la même chose que ce qu'il y a dans les témoignages. D'accord? Quand vous avez des témoins, imaginez que vous avez une situation où vous avez un groupe témoin composé de 10 personnes. Mmh. Et dans ce groupe témoin, il y a des gens qui ne sont pas saouls. Mmh. Il y a un voleur et puis il y a un parent d'une des parties. Mmh. Le témoignage, tout le témoignage tombe. Mmh. C'est la raison pour laquelle dans les mariages, mmh. où en général, sous la choupa, il y a les parents, donc ils ne sont évidemment pas saouls pour témoigner sur le mariage, il faut faire attention de bien dire, eux sont témoins. Mmh. Sous-entendu, ça doit vouloir dire eux sont témoins et les autres ne sont pas témoins. C'est-à-dire on refuse la constitution d'un groupe de témoins. Mmh. Moi je dis, il y en a qui disent qu'il faut dire un tnaï kafoul, un tnaï double, c'est-à-dire vous êtes témoin et personne d'autre n'est témoin. Pour exclure tous les gens, parce que sinon ils ne sont pas mariés, hein. C'est clair, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de témoignage. Et il y a la même chose sur donc les témoins et le contenu du témoignage. Alors certains veulent dire, donc ils voudraient dire que pourquoi il n'est pas saoul, ben à cause de ça. Mais ça dépend hein, si tu considères justement que la date fait partie du témoignage. Or, Prime et d'autres disent que la date ne fait pas partie du témoignage obligatoirement, parce qu'ils analysent comme ça. Ils disent que à quoi sert la date dans un. Elle sert. Parce qu'il y a une halakha qui dit que Edut Shiyata Yachol Lazima Ena Edut. Lazim, c'est le din de Edim Zomin, c'est-à-dire pour. Edim Zomin, c'est la situation suivante. Vous vous souvenez, c'est. Il y a deux personnes qui viennent et ils disent Rouven a tué Shimon. Voilà, bon, témoigné, donc Rouven est passible de mort. Mais on leur dit un instant. Nous, on veut savoir, il y a un din de Drisha et Chakira, c'est marqué, de Rashta et Chakarta et Teviné, etc. Il y a un din de Drisha et Chakira. Et donc, il faut qu'on puisse contester la qualité de témoin des témoins. Pas le contenu. Le contenu, on peut toujours, mais la qualité de témoin. Alors dire, il faut qu'on puisse leur dire, mais vous n'étiez pas témoin. C'est peut-être vrai ce que Rouven a tué Shimon. Mais en tout cas, vous n'étiez pas témoin. Par exemple, il faut qu'on puisse leur dire, mais quel jour ça a eu lieu? Donc il faut qu'ils donnent la date. Où est-ce que ça a eu lieu? S'ils ne donnent pas ces deux choses-là, alors on ne reçoit pas leur témoignage. Ce n'est pas qu'on a besoin de ça comme une partie du témoignage, mais on a besoin de ça pour fabriquer la personne des témoins, pour en faire des vrais témoins. Bon, il faut qu'ils soient contestables comme témoins. Donc qu'on puisse venir leur dire. Vous dites que le 1er janvier, sous la tour Eiffel, Rouven a tué Shimon. Le 1er janvier, vous étiez avec nous
à la plagne.
À la plagne. Et à telle et telle heure. Et vous, c'est pas possible, même en avion, c'est pas possible d'être à ce moment-là sous la tour Eiffel pour constater que Rouven a tué Shimon. C'est clair? Donc on peut dire, la date... elle ne fait pas partie du contenu du shtar. La date, elle est dans le shtar pour qu'on puisse contester la qualité de témoin des témoins. Ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas la même chose. Et donc, et là-dessus, il n'y a pas de din de Edut Sheptela Miktata Betakula. En tout cas, de toute manière, c'est assez difficile. Oui. En tout cas, l'Agmara ici, Marémar, lui, il pense, dans sa démonstration, il pense que la date n'est pas une partie du contenu. C'est une partie du contenu. Alors, on ne peut pas dire qu'on avait le droit de l'écrire, mais à une autre date, c'est plus le même objet. C'est clair? Alors maintenant, l'Agmara, elle rapporte un autre cas. Et la Ha de Tanya, voilà. Alors, il y a une Braïta. Rashi nous dit, de Rashi, il est à la quatrième ligne, la dernière ligne, c'est large. Il dit, Recha d'idée, la Recha de ce texte, elle dit, En motzin la achilat perot, ou le shevach karkaot, minechassim et shubadim, mipne tikkun haolam. Et comme un farèche, le shevach karkaot ketzat. Donc nous, cette citation de la Gemara ici, le Shevach Ketzad, c'est quelque chose qui ne se comprend pas si on ne dit pas la Recha. Alors Rashi nous a amené la Recha. De quoi on parle ici?
La Recha, du coup, c'est quoi?
La Recha, elle dit, Ein motzin la achilat perot ou le Shevach Karkaot, minechassim meshubadim mipnei tikkun haolam. Alors, Ketzad, alors, on va lire dans la Gemara et vous allez comprendre. Arei shegazal sadeh mechavero. A avant B pardon a volé un champ, il a volé le champ de A. Umchara leacher et il l'a vendu ce champ à C. Et C vishbicha. Et C il a amélioré la qualité du champ. Fait, il a investi, etc. Et maintenant, A, il récupère le champ. Il dit, maintenant, il a réussi à faire la preuve que le champ était à lui. Il va chez C, il dit, donne-moi mon champ. Alors, C va se retourner contre B. Il dit, tu m'as vendu un champ. On va admettre qu'il lui a vendu un champ même avec un achayout. D'accord? Et il va lui dire, ben, donne-moi mon champ maintenant. Donne-moi mon argent. Et non seulement je veux l'argent que je t'ai donné en paiement du champ que tu m'as vendu, mais je veux aussi récupérer les investissements que j'ai faits. N'est-ce pas? C'est clair? Alors la Gemara dit que chez où gove ta keren min meshubadim. Quand C va récupérer l'argent de B, il va pouvoir se payer sur les biens engagés, sur les biens immobiliers. En ce qui concerne le keren, c'est-à-dire la valeur du champ, le prix qu'il a payé pour le champ. Veshevach, mais l'investissement, l'amélioration, il gove menechassim benechorin seulement. Il peut seulement être gové des biens qui sont libres. Bon, ça peut être des biens immobiliers, mais il faut qu'ils soient libres. Il ne peut pas aller saisir un autre champ. Claire? On écrit ici. A est le volet. B est le voleur. Il est aussi le vendeur. Et C est l'acheteur. Il est aussi l'investisseur. Et investi dans le champ. Donc maintenant, on est dans la situation où C doit restituer le champ à A. Et du coup, C va aller chez B, il va dire à B, tu me dois la valeur du champ. Et tu me dois aussi la valeur de ce que j'ai investi. À cause de toi, j'ai perdu cet investissement.
Pourquoi ce serait pas A qui rembourserait l'investissement? C'est lui qui va en profiter.
Oui, non, mais lui, il n'y est pour rien. Il va profiter, effectivement, mais B a induit en erreur, c'est lui qui le fait. Alors, ce qui se passe, bon, alors ce qu'on nous dit, voilà, le voleur, là, maintenant, il va devoir payer deux choses, mais le prix d'achat du champ, ça, C va pouvoir le récupérer sur B, y compris si B, par exemple, a vendu un champ à D. D'accord, il s'est arrangé pour ne pas être solvable, il n'est pas solvable maintenant. Alors C va aller récupérer 1 chez D. À D de se débrouiller avec B. Par contre, l'investissement, il ne pourra pas le prendre. L'investissement-là, il ne peut pas le lui prendre. Il ne pourra le récupérer ici que directement chez B, sur des biens libres. Ça, c'est la situation. Alors, la Gemara dit, mais en réalité, comment ça fonctionne? On devrait dire, dit la Gemara, Nema l'onitan l'ikatev. Voilà. C, quand il va faire valoir ses droits contre B, il va lui dire, il existait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un schéma de vente du champ par B à C. Et il y a une arpaillote garantie que B a donné aussi à C, qui est un avenant, si vous voulez, au shtar en question. Et si jamais on te saisit ce champ, je te le garantis. Bon, si jamais je dois de l'argent à des gens, si elle dit, moi je l'achète seulement si tu me le garantis, alors il va avec une arpaillote. Évidemment, l'arpaillote et le shtar, ils sont couplés. Ce shtar-là, on devrait dire qu'il n'a pas le droit de le. C'est l'onitan l'ikatev, puisque c'est un voleur. Il a vendu un champ qui ne lui appartenait pas. Donc on devrait dire, le shtar, en question, d'après ce que tu viens de dire, ça devrait être un shtar qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Donc, la chayout non plus.
Pas le droit de les écrire parce que il a vendu un shtar qui ne lui appartient pas. Ouais. Un champ qui ne lui appartient pas. Donc, l'onitan de l'ikatev, c'est complètement pas soul. Donc en réalité, c'est avec tout ça, il n'a pas. Comment il peut aller chercher D quand il va entendre ça? Il va dire, mais tu peux accourir. Tu ne peux pas venir me prendre quoi que ce soit. Il n'y a pas de shtar. Tu n'as pas de shtar. C'est clair? C'est ce qu'on dit. Alors comment ça se fait que la Gemara a dit qu'il pouvait prendre des biens meshubadim? Alors la Gemara elle dit une chose intéressante. Achi ashta hatam, donc dans l'histoire de, on reste avec ce qu'on avait dit sur la vigne. Effectivement la vigne c'était un shtar qu'on n'avait pas le droit d'écrire, mais hatam dans l'histoire de Shevar Karkaot, là, de, d'accord, cette histoire-là. Il y a deux opinions sur ce que le voleur pense, c'est-à-dire deux sur ce qu'il pense, le voleur. Il mandamar nichale de l'onikre gazlana, il mandamar nichale de l'ikum bememnute, le fayesle le mare, ou mukimla le shtare. Bonsoir. Regardez Rashi, le Rashi sur Il Mandama. Rashi qui est à la hauteur du début de la Mishnah. Mandama, le Perek Kama, dans le premier chapitre.
il y a une opinion qui dit Nihale, il lui est agréable, c'est-à-dire le voleur, il veut de l'oli créer Gazlana. Il veut qu'on ne l'appelle pas voleur. C'est un voleur, mais il n'assume pas, comme on dit. Adam Shemachars de Gzula le Chavero, un homme qui a vendu un champ volé à l'autre, un tiers, Mechazer à la Baalim Arishonim, Velokra Mehem la Amid Beyad Alokar. Il va aller chez le premier propriétaire, et même si ça lui coûte énormément, il va le lui acheter, qui est de l'oli créer Gazlana, pour qu'on ne l'appelle pas Gazlana. Il ne veut pas être appelé voleur. Et il y a une autre opinion qui dit qu'il ne veut pas perdre son crédit auprès de C. Perdre son crédit, si tu vends des trucs, il va complètement perdre son crédit. Donc, que ce soit à cause de la perte de crédit ou que ce soit pour ne pas être appelé voleur, mais Fayesle le Mara, il va apaiser, donc il va acheter. L'okra mina bailim arishonim, il va racheter le champ des premiers propriétaires. Et donc il va faire ce qu'il faut pour pouvoir honorer le shtar. Donc en quelque sorte c'est un shtar qui vaut rien, mais il va se mettre dans la position néanmoins de pouvoir honorer le shtar. Mais dans l'histoire de la vigne, il ne va pas se mettre en position de pouvoir l'honorer son shtar, parce que là vous réminez comme Echaben. Tout ce qu'il a fait, c'était pour échapper au gangster là, qui lui faisait ce chantage. Si tu ne me la vends pas, je te le prends. Donc, tu t'imagines bien que shtara me kayemle. Tu crois qu'il va faire tenir le shtar? Il ne veut pas faire le shtar. Le shtar de la vigne, il n'est pas du tout intéressé à ce que ce shtar soit validé. Par contre, ce type-là, que ce soit l'une ou l'autre des raisons, il est intéressé à ce que le shtar soit validé. C'est pourquoi on a dit qu'il va pouvoir prendre les biens, prendre sur les biens gagés, comme s'il y avait. Il va valider le shtar, ça va se faire comme ça. Il va payer ce qu'il faudra pour avoir. Et donc le shtar sera un bon shtar. Donc ce n'est pas vraiment un bon shtar dans la mesure où quand il a été écrit, on n'avait pas le droit de l'écrire. Mais ici, la Gemara a introduit une nouvelle façon de faire. Que, ben, si quelqu'un a écrit un shtar qu'il n'aurait pas dû écrire, et qu'on est sûr qu'il va quand même le faire tenir, bon, ça marche.
C'est étonnant qu'il se fasse chercher.
Alors, c'est étonnant, parce que ce qui est étonnant, c'est que quand tu dis que tu vas le faire tenir. Alors, oui, en fait, tenir un shtar qui ne tient pas debout. Mais quand tu dis que tu vas le faire tenir, et on dit comme ça, ouais, c'est un voleur, on dit comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que il va pouvoir prendre des shtars, quand tu dis qu'il va pouvoir prendre des biens gagés, il prend pas des biens gagés puisqu'il le fait tenir. S'il fait tenir, ça veut dire il va lui livrer, il n'a pas besoin de biens gagés. Donc il faut dire, nous disons que le type il va faire tenir son shtar, mais en fait, il ne l'a pas fait tenir, et donc on va valider le shtar quand même, pour qu'il puisse aller prendre des biens gagés. Ça c'est un peu paradoxal quand même. Parce que s'il fait tenir le shtar, on n'a plus besoin d'aller, il n'y a pas besoin de se servir sur D. Parce qu'il a son champ, il va garder le champ. C'est difficile de comprendre ce que la Gemara veut ici. Ça suffit pour qu'on dise Nitan Likatev, ça veut dire. C'est Nitan Likatev. On a le droit d'écrire ça parce qu'il pense qu'il va le faire. ça veut dire probablement. Quand il a écrit le shtar, le voleur, il pensait, si jamais je me fais prendre, je le rachète. Donc ça s'appelle Nital Nikatev.
Maintenant,
il n'a pas pu le racheter, ou bien parce que lui, il ne voulait pas, ou bien parce que... Et nous, on va valider ça, mais c'est très étonnant, parce que il y a des gens qui vont casquer ici. Dès, on va lui prendre ce champ. C'est des biens Mouchoubadim. Bien, on va rester là. J'essaierai de voir si je trouve un peu de littérature là-dessus.
Mmh.